dans sa lettre à Fliss, une lettre du 15 octobre 1895, Freud fait part à son ami, il dit, d'un grand secret clinique. Mon grand secret clinique. Cela concerne l'étiologie de l'hystérie. L'étiologie du symptôme hystérique, c'est une étiologie en deux temps. Il y a une première et une deuxième scène. L'ordre chronologique ne coïncide pas toutefois avec l'ordre de la cause. Prenons le cas exemplaire d'Emma, et je pense qu'il n'y a pas besoin que je le rappelle ici. Et là, Freud, pour l'expliquer, écrit « On refoule un souvenir qu'il est devenu un traumatisme qui nachträglich, après coup. » Fin citation. Avant, l'événement n'était pas traumatique. Il le devient après coup, tardivement. Ce qui cause, c'est l'après. L'hystérie, je vais traduire Freud. L'hystérie, écrit Freud à son ami dans la lettre dont j'ai parlé tout à l'heure. L'hystérie est la conséquence d'un plaisir sexuel éprouvé dans les périodes présexuelles qui, plus tard, se transforme en une sorte d'autoréprobation. Présexuel, dit Freud, signifie précédant la puberté, avant la production de la substance sexuelle. Les événements en question agissent uniquement comme souvenir. Fin de la citation. Voilà les grands secrets cliniques. Les grands secrets cliniques concernent les rapports de la cause avec le temps. La causalité psychique inverse la ligne du temps succession. Ainsi, au moins, elle se manifeste au regard clinique, elle se manifeste sous forme d'une inversion de la flèche du temps. La flèche du temps, la ligne du temps, va de A à B. La causalité psychique, au contraire, va de B à A. En B, A reçoit une signification sexuelle, on pourrait l'appeler A puissance 1, et Freud écrit, les souvenirs suscitent un effet traumatique qui n'a pas produit en tant qu'expérience vécue. Fin citation. L'inversion semblerait être juste une question épistémologique. Semblerait regarder juste l'interprétation d'un fait. Freud, après tout, est en train de dire que A en B reçoit une signification A puissance 1. Toutefois, je crois, nous devons nous interroger. Il y a vraiment un en soi, une perception qui ne soit déjà dans l'immédiat, son propre souvenir, est-elle concevable? Comment une expérience peut être vécue si elle ne s'accompagne pas d'une signification qui vient du passé? Les données phénoménologiques, à mon avis, ne vérifient pas cette hypothèse naïvement positiviste. Husserl l'a démontré de manière efficace dans son analyse de la conscience antérieure du temps. Son diagramme du flux du temps vécu nous montre que A, en tant que tel, n'existe pas. A existe seulement lorsqu'il s'écoule dans son horizon du passé, dans son DB horizon du passé. Donc, nous ne pouvons pas même dire que la causalité psychique inverse la ligne, la flèche du temple, les grands secrets cliniques suggèrent une hypothèse sur la causalité psychique qui se veut des plus radicales. La causalité psychique n'inverse pas la flèche du temps, mais se décroche de la succession. La causalité ne présuppose plus le temps à son fondement, ne présuppose pas le temps comme son horizon. Et les gestes théoriques du jeune Freud, c'est un geste subversif, même si nous allons le voir pas inédit. Il n'est pas inédit. Il est, bien sûr, il est sans doute subversif vis-à-vis de la philosophie moderne et de ce que j'appelle sa ligne majeure. Sa ligne majeure, c'est la compréhension de l'être dans l'horizon du temps. Alors, c'est subversif vis-à-vis de la ligne majeure de la philosophie moderne. Rappelons-nous en effet comment Hume avait liquidé la causalité. Il l'avait réduite à son fondement chronologique, à la contiguïté du successif. Tout ce qui se manifeste à la sensibilité, c'est l'un après l'autre. Rappelons-nous encore comment Kant avait réhabilité cette même causalité qui a été liquidée par Hume. L'ordre de la succession, disait Kant, l'ordre de la succession des perceptions est déterminé selon une règle, c'est-à-dire d'une façon nécessaire. Grâce à la règle, moi, c'est le moi du sujet transcendantal naturellement, moi je rends objective ma synthèse de l'appréhension du multiple. Je lui donne ses rapports à l'objet, il dit les rapports à l'objet, que, en tant que pure succession, elle n'avait pas. En résumant, pour Hume, pour Kant, le temps, c'est le fondement, c'est l'horizon de la relation causale. Pour Freud, au contraire, la causalité psychique s'explique à partir sur le fondement d'un inconscient, Zeitlos. La cause n'est pas dans le temps. Elle ne passe pas dans le temps. L'inconscient est toujours un acte. Il n'est pas dans le présent, mais il est plutôt le présent absolu, le même présent du cogito sum de Descartes, dans lequel le présent absolu, dans lequel tout advient. Tout advient en lui, mais lui, il n'advient nulle part et en aucun temps, sans cesser d'advenir toujours et partout. Les grands secrets cliniques, voici c'est ma thèse, et donc Spinoza. Si, et bien avant lui, c'est le secret de la théologie spéculative, des causes, jusqu'à Bruno, les grands secrets cliniques, c'est l'immanence absolue de la substance absolument infinie, dans l'infinité, cette fois privative, des modes. Les grands secrets, c'est que la causalité psychique est causalité métaphysique. Et nous arrivons là à la fin de ma prémisse, et j'en viens maintenant à la thématique de mon exposé, c'est-à-dire la causalité psychique. Alors, la genèse de la psychanalyse en tant que science s'est faite en deux temps. Premièrement, en individuant pour les symptômes hystériques une cause psychique non organique. Deuxièmement, en identifiant la causalité psychique avec la causalité dans l'inconscient. La causalité psychique est la causalité de l'inconscient. L'inconscient freudien, a dit Lacan, est de l'ordre de la cause. Séminaire 11. Voici sa spécificité. Il y a toutefois des façons, des modalités, des modes de lire cet énoncé. L'inconscient, c'est de l'ordre de la cause. Et la première modalité considère l'inconscient en tant que sujet et l'être cause en tant que prédicat. Dans cette perspective, la découverte de la psychanalyse serait que l'inconscient est la cause du symptôme. L'inconscient serait quelque chose que on se trouve sous la surface, sous la conscience, quelque chose qui cause en effet les symptômes. Mais il y a aussi une deuxième façon de lire cet énoncé, en façon que je définirais spéculative dans le sens hegelien d'auteur. L'inconscient est ses causes sans être une chose qui cause. Causer, ce n'est pas ce que l'inconscient fait, mais causer, c'est ce que l'inconscient est, son essence. Dans la langue de Spinoza, la puissance causative de l'inconscience est ipsa ipsius essentia. L'inconscient n'est pas une chose qui cause. L'inconscient, c'est, dans cette perspective, l'acte du causer. La chose, c'est la cause. Il ne suffit pas de dire que l'inconscient est l'acte du causer. Il faudrait emphatiser, il faudrait emphatiser encore et ajouter que l'inconscient, c'est l'acte, un acte du causer. L'inconscient, c'est causation, un acte. Et rien d'autre que cause, un acte. C'est pourquoi l'inconscient est réel. Parce que il est de l'ordre de la cause. Réel veut dire effectuel, wirklich. Je rappelle que Hegel traduisait l'énergie d'Aristote avec Wirklichkeit. L'inconscient produit des effets. L'inconscient, en tant que cause en acte, n'est rien d'autre que production des effets. Et c'est pourquoi l'inconscient, c'est un phénomène de surface. Sa profondeur supposée, son être une chose cachée, séparée de ses effets, est juste un mirage produit, engendré par les mouvements rétrogrades du vrai. Dans quelle constellation spéculative se situe alors la découverte freudienne de l'inconscient cause et de l'inconscient réel? Je la situerai dans la ligne de la pensée que j'appelle mineure, la ligne qui, à partir d'un certain Platon et surtout des philosophes mégariques, arrive jusqu'au pragmatisme américain, à Whitehead et à Deleuze. Cette ligne, que j'appelle mineure, retrouve avec Spinoza son expression la plus accomplie. Selon cette ligne de la pensée, être, to on, égale causer. Être signifie produire des effets. La substance ne peut pas être détachée de ses effets, ne peut pas être détachée de ses infinies modifications. Être dans le sens existentiel et non pas copulatif du verbe veut dire puissance. Puissance de modifier et puissance d'être affecté. ne serait-ce, écrit Platon dans les Sophistes, qu'une seule fois et pour petite que soit la modification. Il est une puissance qui nous ne devons pas absolument confondre avec la possibilité. La puissance d'agir et de pâtir, à laquelle fait référence l'étranger d'Éléa dans les passages que j'ai cités tout à l'heure, n'a pas donc la même signification que lui sera attribué par Aristote. Ce n'est pas la dynamis distante et corrélée à l'intellect. Elle n'a pas le sens, la signification de la contingence, c'est-à-dire de ce qui peut être, mais aussi ne pas être. Causer, c'est l'énergie de l'homme, de l'être. Son acte en acte. White disait, l'essence de l'être, c'est d'être impliqué dans une action causale avec les autres choses. C'est la doctrine, c'est la science, la doctrine de la loi. De la loi en tant qu'immanence. Fin citation, la psychanalyse est spinozienne parce qu'elle ne conçoit pas l'inconscient en tant qu'une substance pour vous des prédicats, les propres, mais elle conçoit l'inconscient en tant que cause, acte en acte, en tant qu'énergie, la plus pure. Revenons maintenant nouvellement à notre demande, quel genre de causalité est la causalité psychique? Poser cette question équivaut à se demander quel genre de puissance c'est la puissance de l'inconscient? Quelles sont les forces que l'analyste manie? À quoi doit-il faire face? Lacan répond sèchement, l'analyste doit faire face aux larves. L'inconscient est larvaire. Lacan écrit, l'inconscient c'est quelque chose de l'ordre du non réalisé, quelque chose qui se tient en attente dans l'air, dirais-je, du non né. Ce n'est jamais sans danger, après tout, qu'on fait remuer quelque chose dans cette zone des larves. Et peut-être, après tout, est-il de la position de l'analyste, s'il y est vraiment, de devoir être assiégé, je veux dire réellement, pour ceux chez qui il a évoqué ce monde des larves, sans avoir pour toujours les mener jusqu'au bout. Fin citation. L'inconscient larvaire semblerait contredire la nature mégarique de l'inconscient, semblerait réhabiliter le possible, la contingence, la finitude, toute une métaphysique chrétienne, créationniste, non spinozienne. En réalité, ce n'est pas ainsi. L'inconscient mégarique, c'est un inconscient larvaire. Je vais m'expliquer. La puissance de l'inconscience, la puissance qui en constitue l'essence, ce n'est pas pouvoir de, ce n'est pas capacité, ce n'est pas exis, ce n'est pas faculté, mais il est plutôt en n'est pas pouvoir n'est pas. Je ne dis pas nécessité, n'est pas pouvoir n'est pas. Je ne dis pas nécessité. Sartre a baptisé ce n'est pas pouvoir n'est pas dans son écrit le plus spinozien, c'est-à-dire la transcendance de l'ego, et juste en se référant à un cas de psychose tiré de Janet. Et il a baptisé ce n'est pas pouvoir n'est pas, qui est la puissance de l'inconscient, une monstrueuse spontanéité. Monstrueuse spontanéité. Une créativité impersonnelle, qui se moque de la notre supposée liberté des sujets. Oh, tout le monde connaît l'apologue de la grenouille et du scorpion. On la s'attribue à Ésope, mais en réalité, il a été rendu très célèbre par Orson Welles, in a confidential report de 1955. Et l'apologue s'est conclu avec une déclaration du scorpion qui démentit les mots doux et persuasifs avec lesquels le scorpion avait convaincu la grenouille à les prendre sur le dos pour traverser la rivière. Le scorpion dit « Je ne pouvais pas ne pas te piquer parce que c'est ma nature. » Comme le dieu de Spinoza, le scorpion agit en suivant la seule nécessité de sa nature. Voilà la monstrueuse spontanéité du champ transcendantal impersonnel dont parlait Sartre dans son premier écrit. Les philosophes mégariques concevaient la dynamis en tant que ne pas pouvoir n'est pas. Ça, c'est la dynamis pour les philosophes mégariques. C'est-à-dire, en tant qu'acte, un acte, comme energeia, en tant que nature. Contre cette hypothèse, Aristote a construit son dispositif métaphysique, les dispositifs du devenir, qui, si nous le regardons de plus près, est un dispositif contre nature. Pour réfuter les mégariques, Aristote affirme que pouvoir, dans son sens authentique, signifie avoir le pouvoir de. C'est-à-dire, avoir le pouvoir de, c'est-à-dire se situer dans ces points paradoxal et aporétique, dans lesquels, en même temps, et selon les mêmes points de vue, on peut autant faire que ne pas faire. Bref, les pouvoirs, selon Aristote, c'est le pouvoir de, s'il est aussi en même temps pouvoir de ne pas. Deux citations à ces propos, deux citations d'Aristote. Pour la même chose, selon les mêmes rapports, toute puissance s'oppose à une impuissance. Deuxième citation, ce qui a la puissance d'être, peut être, mais ici n'est pas être. Donc, la même chose a la possibilité d'être et de ne pas être. Fin citation. Le scorpion de Wells, qui a évidemment lu la métaphysique d'Aristote, explique à la grenouille qu'il peut autant piquer que ne pas piquer, que son pouvoir de est en même temps un pouvoir de ne pas, qu'il est un sujet fourni des facultés, qu'il est un sujet souverain qui peut être souverain, veut dire pouvoir disposer de son propre pouvoir. Cet état d'exception vis-à-vis les principes par rapport aux principes des contradictions, c'est la signification de la puissance souveraine. C'est la même puissance que les souverains héritent dans toutes les constitutions politiques. Selon Spinoza, la superstition anthropomorphique consiste justement dans l'attribution à la cause, c'est-à-dire à Dieu, de la puissance ou du droit des rois. C'est-à-dire une puissance souveraine, une puissance humaine, c'est-à-dire humaine, écrit Spinoza, cette puissance qui implique une impuissance. Une impuissance. Ça, c'est la puissance humaine. Spinoza, au contraire, est un mégarique. Un mégarique comme les Couses du Possest ou les Bruno de la Causa Principia Tour. La puissance infinie du Dieu coïncide avec son acte infini. La puissance de Dieu, c'est une puissance absolue, sans écart. Mais vous allez me dire, et la larve, l'inconscient larve, ne contredit-il pas l'inconscient mégarique dont j'ai parlé tout à l'heure? La larve semblerait faire allusion à la déficience du réel, au manque, à la contingence. Là, quand même, présente l'inconscient comme du non réalisé, quelque chose qui s'étend en latent dans l'air, dirais-je, du non-né. Mais non réalisé ne signifie pas irréel ou déréel, c'est encore Lacan qui parle, ne signifie pas irréel ou déréel, les non réalisés de la larve, par exemple, c'est les ne pas pouvoir ne pas se réaliser. C'est son élan. C'est-à-dire l'acte, un acte de sa réalisation. Statut larvaire de l'inconscient signifie que l'inconscient n'est rien de ce qui advient et, dans ce sens, il est du non réalisé. Ce n'est rien de ce qui advient, mais de ce qui est advenu, il constitue l'avenir. Il en constitue l'événement, la monstrueuse spontanéité. Le statut larvaire de l'inconscient est son statut causal, de causation en acte. Mais la causation de la larve, c'est quoi? Il s'agit d'une causalité immanente et non pas transitive. La cause transitive, transience, c'est la cause qui produit des effets en dehors d'elle-même, qui produisent des effets en dehors d'elle-même. La cause immanente produit ses effets tout en restant en elle-même. Les activités poétiques, démiurgiques, artisanales sont un très bon exemple d'activités transitives. Encore mieux, à mon avis, elles ne fournissent les modèles. La poésie produit des objets transcendants séparés du producteur. Au contraire de la praxis, mais il faudrait dire beaucoup de choses à ce propos, peut-être plus tard. Alors, tous les commentateurs de l'éthique de Spinoza, Braunschweig, Alquier, je vais citer quelqu'un, remarque que nous, sur les fondements, sur l'hypothèse, sur la thèse de la causalité immanente, nous ne pouvons pas conclure que Dieu, c'est-à-dire la cause, et le monde, c'est-à-dire les effets, ou dans les cas qui nous intéressent, l'inconscient et ses symptômes s'identifient. C'est la grande question du panthéisme, ce matin a été soulevée, non? Voici l'autre aspect de la doctrine spinozienne, de la causalité immanente, qui, pour la définition de la causalité psychique, s'avère décisive. Je vais citer Spinoza, les causés diffèrent de sa cause, les causés diffèrent de sa cause, précisément en ce qu'il tient de sa cause. Encore, par suite, une chose qui est à la fois cause de l'essence et de l'existence dans certains effets doit différer de cet effet aussi bien à l'égard de l'essence qu'à l'égard de l'existence. Fin citation. C'est Spinoza qui parle. Je vais m'expliquer. Un homme, et c'est un exemple que Spinoza lui-même fait, un homme diffère de l'homme qui engendre, par exemple, les parents de son enfant, par son existence, ne diffère pas par son essence. La relation entre les parents et l'enfant, c'est une relation, si nous voulons parler la langue de la métaphysique, c'est une relation de synonymie. C'est-à-dire, il y a un genre commun qui fait des cadres à la relation. Le genre homme. L'essence est la même. Dieu, au contraire, cause immanent du monde, diffère du monde qui produit, autant pour l'existence que pour l'essence. La relation, c'est d'homonymie. L'homonymie entre Dieu et le monde, c'est une homonymie radicale. C'est-à-dire, oui, nous sommes ici en face de la nulle proportion entre infini et fini dont ont parlé les théologues spéculatifs. Il n'y a nulle proportion. Pas de proportion, pas de passage. Braunschweig, par exemple, a pu conclure qu'en se différenciant pour l'existence et par l'essence, ça c'est Braunschweig qui parle, il n'y a donc rien de commun entre Dieu et ses créatures, pour Spinoza. Nous voilà venus à la question essentielle. Nulle proportion entre fini et infini. Et toutefois, l'infini, c'est la cause immanente du fini. Il y a une relation d'homonymie radicale entre Dieu et le monde. Pas de rapport. Et toutefois, Dieu est cause immanente du monde. Avec cette nulle proportion, nous sommes ici en présence de la béance qui, selon Lacan, est l'essence même de la causalité psychique. Écrit Lacan, Lacan écrit, chaque fois que nous parlons des causes, il y a toujours, dans ces termes, quelque chose d'anticonceptuel, d'indéfini. Entre la cause et l'effet, il y a un trou. Et quelque chose qui vient osciller dans l'intervalle. Il n'y a des causes que de ce qui cloche. Fin citation. Voyons ce qui cloche. Alors, nous savons, la causalité psychique est causalité immanente en ce qui en dépend, et ses effets, ses modes. Deux, la cause est tout à fait hétérogène au mode dans lequel elle est immanente. La cause est définie à la fois comme ce qui contient son effet et comme ce qui en est absolument distante. Nous avons vu que l'inconscient larvaire est mégarique et que sa causalité est immanente et non pas transitive. Nous devons maintenant ajouter que la causalité immanente de l'inconscient est une causalité unilatérale. Unilatérale. C'est Bergson, lecteur de Plotin et de Spinoza, qui a individué la causalité métaphysique dans la causalité unilatérale. Il en a proposé une révision pour faire d'elle le cœur d'une métaphysique de la durée créatrice. J'ai déjà touché cette thématique et je ne peux pas la reprendre ici pour manque de temps. Je voudrais cependant rappeler que la causalité unilatérale est assumée positivement par Bergson comme la causalité qui explique l'évolution créatrice, qui explique les vivants, qui explique les « ne pas pouvoir, ne pas réaliser » de la larve. La causalité unilatérale, c'est une causalité sui generis, dit Bergson, du troisième genre. Par rapport aux deux modalités de la causalité transitive, c'est-à-dire la cause efficiente et la causalité finale. On la définit unilatérale parce que elle va dans une seule direction. La causalité c'est unilatérale parce que l'effet est en rapport avec la cause, mais non pas l'inverse. La cause n'est pas en rapport avec l'effet. La cause n'est pas en rapport avec l'effet qu'elle engendre. La cause ne participe pas en aucune manière et aucun degré de la multiplicité qu'elle engendre. Il y a cause pour l'effet, il y a cause pour l'effet, du bas vers le haut, comme écrit Bergson, c'est le mouvement rétrograde d'ouvrir, pour qui connaît Bergson, mais il n'y a pas effet pour la cause, du haut vers le bas. L'extériorité, on revient à la cause absente dont nous avons parlé ce matin, l'extériorité de la cause est absolue. Le schéma de la causalité unilatérale est donc le schéma de la causalité unilatérale est le suivant. Elle est suivante. Et Bergson le tire des Platon. D'un côté, on remarque qu'il y a une implication nécessaire entre A et B. A implique B. A est cause de B. De l'autre côté, on remarque la différence de nature, l'absence des rapports entre A et B. A diffère par nature de B. On en conclut que c'est juste cette indifférence du principe qui engendre d'une façon illimitée, la cause est immanente en ce qui en dépend, justement parce qu'elle est tout à fait différente de lui. La cause engendre tout en restant en elle-même. Elle se communique en restant séparée. Mais prenons garde. Elle engendre parce qu'elle reste en soi-même. Elle se participe, se communique, parce qu'elle reste séparée. En vertu de sa séparation, la cause agit en tant que cause immanente. La cause cause toutes les choses, panton dynamis, parce que renfermée en elle-même, d'une manière presque autiste, sans aucun rapport avec l'effet qu'elle engendre. Platon dirait dans ses Énéades que l'engendré naît de lui, mais juste dans la mesure où ces dernières restent immobiles en lui-même. Cette conception de la causalité, latente selon Bergson, dans l'histoire de la métaphysique occidentale et explicitée par Platon, constitue ce que Bergson, en commentant Spinoza dans son cours de 1911, définira les grands principes de la monnaie. Les grands principes de la monnaie, et je vais citer les passages de Bergson à ce propos. Bergson écrit, elle est, si l'on veut, le rapport qu'il y a entre la pièce d'or avec sa monnaie. pourvu qu'on se suppose que la monnaie s'offre automatiquement une fois que la pièce d'or est présentée. Comme si nous avions un bilan, non? Et sur un bras, nous avons la pièce d'or. Combien de monnaie il faut pour mettre en équilibre les deux bras de la bilance? Une infinité de monnaies. La pièce d'or est, c'est Dieu, causa sui, la substance absolument infinie, ça c'est la pièce d'or. La minute monnaie, c'est l'infini, cette fois juste en puissance, l'infini des modes. La monnaie, c'est le monde. La monnaie, c'est la multiplicité sans limite des effets qui se disposent dans le temps et dans l'espace. Il faut supposer la parfaite simultanéité de la pièce d'or et de la monnaie, dit Bergson. Ils font un dans le sens où l'un, la cause, Dieu, tout étant un et tout étant causa sui, est d'une façon immédiate, Bergson dit automatiquement, les plusieurs dont ils diffèrent par nature. Schelling le dit très bien tout ça, dans un passage de Sesabandlungen, il dit, de l'infini au fini, il n'y a aucun passage. Union originaire. La cause est cause de tout, de toutes choses, parce qu'elle est cause de soi. Dieu est cause et causa sui, et etiam, Dieu c'est causa sui, et etiam omnium rerum causa, c'est Spinoza. Causa sui, et etiam omnium rerum causa. Etiam, aussi, ne veut pas dire ici, et puis, Dieu est cause de soi, et puis est cause de toute autre chose. Etiam ne veut pas dire, et puis, ne veut pas dire aussi. Etiam veut dire en même temps, en temps qui n'est aucun temps. La causation n'est pas dans le temps, la cause c'est Zeitlos. Etiam, c'est le quatenus. Vous savez, le quatenus, c'est une expression très chère à Spinoza. Le quatenus de l'acte. C'est au sens même où Dieu est dit cause de soi, qu'il doit être aussi cause de toute chose. L'acte de se causer soi-même et l'acte de causer les choses sont en Dieu un seul et même acte. La création est ainsi ramenée à l'acte éternel par lequel Dieu se fait lui-même exister, et cet acte n'est pas le fait de la volonté de Dieu, il dérive de la monstrueuse spontanéité de son essence. En termes lacaniens, c'est l'abéance qui est cause de toutes choses. L'abéance n'est pas une affection de l'un, une affection de l'inconsciente. Ce n'est pas quelque chose qui se rajouterait à sa substance en lentement. Est-ce que l'un de l'inconsciente est lui antérieur, se demande Lacan. Sa réponse est sèche. Justement, je ne le pense pas. Et je vais résumer la thèse de Lacan. Ce que j'ai enseigné au cours de ces années, il dit, continue Lacan, vise plutôt à résoudre sans résidu l'être de l'un, c'est-à-dire de l'inconsciente, dans la feinte, dans les traits, dans la rupture. Non pas subjet prédicat, non pas l'un qui est entamé, non pas l'un qui se fissure, non pas l'un qui, d'une façon très mystérieuse, devient plusieurs, mais la fissure, les traits, la rupture qui est en les traits unaires. Ces traits-là, c'est ce qui se manifeste dans la formule paradoxale causa sui. Une formule inconcevable, causa sui, c'est une formule inconcevable pour Saint Augustin ou pour les philosophes scolastiques. Ce matin, nous avons parlé aussi de ça. Inconcevable parce qu'elle implique un étant que pour se causer lui-même devrait exister avant d'exister. Mais cette formule, inconcevable pour Saint Augustin, par exemple, devient toutefois parfaitement compréhensible dans une perspective négarique. Parce que elle fait référence à un an qui est l'acte, un acte de causer. Un qui s'est reçu dans la production des effets, lesquels, les effets sont les faits, non? Lesquels, en tant qu'effet, diffèrent par nature de l'acte unique qui les a engendrés, tout en restant en lui-même, tout étant éternellement un acte. L'abiance est, à mon avis, l'être mégarique dans l'inconscient en tant que cause de soi. L'inconscient est cause en acte. L'abiance ne signifie pas une absence, une manque, mais plutôt la monstrueuse spontanéité de la larve. Alors, revenons en conclusion au grand secret clinique de Freud. Nous avons dit, la causalité se décroche de la succession, décrochement qui se manifeste sous la forme d'une inversion de la flèche du temps, dans la forme contre-intuitive de la causalité de l'après. La causalité psychique n'est pas causalité dans le temps, mais plutôt, elle est une causalité qui compte le temps parmi ses effets, qui compte parmi ses effets la ligne du temps où se dispose l'effet selon la relation de l'avant et de l'après. Les processus du système inconscient, écrit Freud, sont atemporaux. Bref, et encore Freud qui parle, ils n'ont aucun rapport avec le temps. Les commentateurs de Freud, à mon avis, n'ont jamais pris au sérieux l'hypothèse freudienne. Ils l'ont juste interprétée comme indifférence de l'inconscient aux relations temporelles. Ils ont donné pour acquis, pour sûr, que l'inconscient était comme toute autre chose dans le temps, mais que simplement ils s'en foutaient et avec une gaieté enfantin qu'ils mettaient avant ce qui est après ou qu'ils mettaient ensemble l'avant et l'après. À mon avis, l'hypothèse freudienne est bien plus radicale. Freud ne se bornait pas à affirmer que l'inconscient est étranger au temps dans lequel tout advient. Plutôt, il remet en question le temps succession comme cadre objectif des événements, et il en fait du temps succession une relation antérieure à l'inconscient, un acte, Zeitlos. Bref, l'inconscient cause n'est pas de l'ordre de ce qui advient, il ne se dispose pas dans la ligne du temps, n'est pas de l'ordre, mais il est de l'ordre de l'advenir en tant que pour advenir. Dès les premières lignes de l'homme au loup, Freud, en s'adressant aux analystes, il leur recommande de bien rester fidèles à la temporalité, à la atemporalité de l'inconscient. Et il écrit, première, deuxième page de l'homme loup. En ce qui concerne les médecins, je puis seulement dire qu'il doit, en pareil cas, se comporter tout aussi hors le temps que l'inconscient lui-même, s'il veut apprendre ou obtenir quoi que ce soit. Fin citation. Avec son emphase sur la temporalité, sur la atemporalité, en tant qu'objet et méthode, Freud veut nous dire une chose, à mon avis, très simple. Il demande à l'analyste d'envisager le psychique en tant qu'un mode fini de la substance infinie inconscient. Il demande de considérer le psychique monadologiquement en tant que processus en acte dans lequel l'un de l'inconscient, tout en étant un et tout restant un d'une manière presque autiste, engendre éternellement les plusieurs, les multiples, dont il diffère par nature. Ça, c'est la causalité immanente, ça, c'est la causalité unilatérale. Où est le traumatisme de Sergueï? Où est situé son traumatisme originaire? Quelque part dans la ligne du temps, comme un fait parmi les faits, ou bien partout et nulle part, en n'étant jamais que là où cependant il n'est pas. Voilà la différence des natures dans l'implication nécessaire. Voilà la causalité unilatérale. Qu'est-ce que le psychique dont Freud voudrait être les scientifiques, sinon les coups dans un seul événement traumatique, un événement qui se répète avec des variations dans toute la constellation des faits qui constituent une existence, une vie. Et ça, c'est ma conclusion sous forme d'interrogation. Et peut-être situé les traumatismes originaires qui expliquent une existence, sinon toujours ici, dans ces symptômes, sans jamais être ces symptômes. Où est, pour nous qui voulons le dire, sinon dans le fond d'un passé qui n'a jamais été présent et qui insiste, qui subsiste dans chaque présent comme son passé transcendantal? Merci.